on va reparler de la canicule, parce que si on est sorti du dôme de chaleur qui a étouffé plus de 70 départements en France, il y en a encore quelques-uns qui ont encore très chaud, eh bien, il faut quand même tirer le bilan, voir notamment ce qui se passe à l'hôpital, et on va retrouver Isor de la Gorce, qui est à l'hôpital Georges Pompidou, où la tension, bien sûr, ne retombe pas dans les hôpitaux. On s'attend à des afflux au fil des jours.
Tout à fait, la tension n'est pas retombée, même si on a observé des baisses de température. Pour la première fois dimanche, un recul des activités aux urgences de près de 10%. Pour autant, pas de retour à la normale parce que le taux aux hôpitaux est toujours extrêmement élevé. Et surtout, la crainte des soignants, c'est de voir effectivement un phénomène de décompensation, c'est-à-dire de voir de nouvelles vagues de patients arriver ici. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un décalage entre les symptômes et les fortes chaleurs qui peuvent survenir quelques jours après, c'est-à-dire que les corps, notamment ceux des plus vulnérables, finissent par lâcher avec le temps et on craint donc de nouvelles vagues de patients qui pourraient arriver et saturer de nouveau les services. Dans le reste du territoire en France, la situation est également tendue avec, par exemple, une forte activité, plus de 50% d'appels au SAMU, également un doublement des hospitalisations pour les plus de 75 ans. À Toulouse également, des taux qui sont extrêmement élevés, notamment des taux d'occupation, 163% aux urgences. Le personnel dénonce toujours un manque d'anticipation et des bricolages, par exemple des couvertures de survie installées aux fenêtres, des ventilateurs qui manquent. Ils réclament et ils attendent toujours les climatiseurs qui ont été promis par le Premier ministre et demandent une vision à plus long terme pour les hôpitaux.
Voilà, Isor de la Gorce avec Marion Delpierre, en direct de l'hôpital Georges Pompidou.
Patrick Pelloux est avec nous.
Oui.
L'homme qui avait alerté il y a maintenant 23 ans.
Oui.
Des conséquences dramatiques de la première grande canicule que la France ait connue en 2003. 23 ans après, vous avez reçu les fameux climatiseurs commandés par Sébastien Lecornu, parce qu'il paraît qu'ils arrivent dans les hôpitaux, là.
Non.
Pas vous.
Non, mais bon, sans doute qu'ils vont dans d'autres hôpitaux, ou peut-être des hôpitaux où il y a...
Vous dites qu'il était temps? Oui.
Mais non, mais ça, c'est parce qu'il faut que vous en parliez, il faut qu'ils montrent qu'ils font quelque chose. Ça sert pas à grand chose.
Ah bah, quand même, si on peut rafraîchir chambre d'un malade, non?
Il faut une politique globale.
Bien sûr, là, n'empêche pas.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait depuis 23 ans, où ça aurait dû être réfléchi pour faire des bâtiments qui n'avaient pas forcément besoin de climatiseurs, d'ailleurs, de mettre de la végétation autour des hôpitaux, où on sait que dès que vous plantez des arbres, la température baisse. Non, il y avait plein de choses, on a perdu 23 ans. Ouais, on a perdu 23 ans.
Bon, on a perdu 23 ans et on est inquiet parce qu'une nouvelle canicule se profile peut-être à l'horizon.
Canicule ou pas, alors?
Alors, soyons factuels. Ce que l'on peut dire, c'est que on observe, selon plusieurs modèles, une hausse très probable et assez forte des températures à partir de ce week-end. Regardez justement donc l'un des modèles, ça c'est le modèle européen, et donc vous le voyez, on a une anomalie thermique représentée en rouge foncé et même en noir pour cette journée du lundi 6 juillet qui correspond à quoi ? Eh bien des températures qui peuvent aller entre 35, 38 et même 40 degrés très localement dans le sud-ouest. Nous avons un autre modèle, le modèle américain, qui lui est encore plus pessimiste, puisqu'il voit les 40 degrés sur une zone bien plus large. Je vous rappelle simplement que le modèle américain, c'était celui tout de même qui avait un petit peu le mieux prédit les températures que nous avions connues lors de cette canicule. Voici justement alors ce modèle. Et là, vous le voyez très concrètement, les températures sont bien plus fortes. Le gris correspond vraiment à des 40 degrés. Alors, vague de chaleur ou canicule, ce qui est certain, c'est que donc les températures vont augmenter à partir de ce week-end, dès samedi.
Donc dès samedi, là.
Dès samedi, effectivement.
Donc on va avoir 5 jours de répit, pas plus, quoi.
Voilà, profitez bien de ces journées de répit, parce que...
Relatif.
Répit relatif, tout de même. Mais voilà, ce sera vraiment une période de répit, car on attend une nouvelle vague de chaleur. Est-ce que ce sera une canicule? C'est trop prématuré.
Alors,
pour le dire.
Rappelez-nous la différence entre vague de chaleur et canicule.
Alors, extrêmement simple, on parle de vague de chaleur quand la température dépasse 3 jours de suite 23,4 degrés à l'échelle nationale. Vous savez, c'est ce fameux indicateur thermique, cette moyenne sur 30 stations. Donc si ça dépasse 23,4 degrés 3 jours de suite, on parlera de vague de chaleur. Pourquoi est-ce que c'est encore aujourd'hui très touchy, si je puis dire, de parler de canicule? Eh bien parce que la canicule, ce sont des seuils propres à chaque département. Par exemple, 21 degrés la nuit, 34 degrés le jour. Impossible de dire maintenant si on va dépasser ces seuils pour chaque département. Donc je me garderai bien de parler de canicule. Juste, vous voyez sur cette carte le fameux indicateur thermique national que l'on attend. Et vous le voyez, donc à partir de samedi, eh bien il repart à la hausse avec des valeurs qui se rapprocheront de celles que nous
avons
connues.
D'accord, mais là, on a la perspective, la fin de la semaine, il y a encore des départements où ça cogne encore fort, là, d'ici la fin de la semaine.
Mais la canicule n'est pas terminée. Voilà. La canicule n'est pas
derrière. En fait, il y aura une espèce de répit un peu pour ceux qui avaient très très chaud. De très très chaud, on est passé à chaud.
À chaud.
Et ensuite, ça va repartir. Mais dans le sud de la France, là,
nous avons toujours cinq ou six départements qui sont en vigilance orange canicule et où l'on attend d'ailleurs une hausse des températures. Il va vraiment falloir les surveiller. Voilà, les cinq départements qui sont actuellement en vigilance canicule. Et on pourrait donc effectivement en avoir de nouveau à partir de ce week-end.
Nous sommes avec le porte-parole de la sécurité civile, le capitaine Simon Habart. Bonsoir. Donc, on est en train de gérer les conséquences de cette canicule, conséquences sanitaires. Puisqu'il y a encore beaucoup de malades à soigner. Il y a sans doute des personnes qui sont chez elles en détresse. Et là, on va le découvrir dans les heures et les jours qui viennent. Et puis, il y a cette nouvelle, peut-être, vague de chaleur qui arrive et qui va rajouter de la tension.
La chose qu'on peut dire, c'est restons vigilants. Restons vigilants parce que les effets sanitaires perdurent malgré les températures un petit peu plus clémentes. Et ben, les corps continuent finalement d'être fatigués. Et donc, il faut continuer de se préserver. Préservez-vous de la chaleur. Reposez-vous un maximum au frais pour que le corps continue finalement de pouvoir s'acclimater à cette nouvelle vague de chaleur qui, on espère, sera un petit peu plus clémente que la première.
Mais là, il va y avoir un afflux dissous de personnes qui vont être en décompensation pendant combien de temps, Patrick?
Alors,
nous, qu'on arrive à comprendre, parce que là, on a la carte. Hein. On sait que les vagues de chaleur vont revenir. On n'en est pas encore sorti de celle-là. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on est dans, on est vraiment dans une situation épouvantable. D'abord, il y a un indicateur qui pour nous est très important, c'est la saturation des morgues. D'accord. Deuxièmement,
on y est dans certains
coins. On y est. On trouve de plus en plus de personnes décédées chez elles. D'accord. Hier, je travaillais. C'était incroyable le nombre d'appels de gens qui venaient voir leurs parents à Paris et qui découvraient le cadavre à la maison.
Ils n'avaient plus de nouvelles, donc
ils n'avaient plus de nouvelles, donc ils venaient. Alors souvent, bien sûr, des personnes âgées ou des personnes avec des traitements qui supportent pas très bien la chaleur. Donc, il y a une surmortalité. C'est atroce, mais c'est comme ça. Deuxièmement, en effet, qu'est-ce qui se passe là sur les organismes? Je serais bien incapable de vous le dire. Après une succession d'une première canicule, une deuxième qui arrive, et puis l'incertitude dont vous venez de parler sur alors ça c'est du jamais vu.
C'est une mauvaise nouvelle, ça, la troisième.
C'est pour nous c'est une très mauvaise nouvelle, parce que vous ajoutez à ça, alors grand bien on a fait notamment par exemple le directeur général de la PHP de déclencher le plan blanc, mais on va pas pouvoir passer tout l'été en plan blanc.
C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir par exemple reporter des opérations qu'on a reportées là.
C'est pas possible. Parce que notamment, vous avez, et puis il faut comprendre, il y a des malades qui attendent des opérations depuis longtemps, etc., qui veulent être opérés, donc voilà. Deuxièmement, il va y avoir les congés, parce qu'il faut bien que le personnel parte en congé, ce qui est tout
à
fait
légitime. On sait que la situation que j'ai entendue, l'été à l'hôpital.
Ah non, mais là, on aurait voulu faire une situation de pire en pire.
Un peu comme au moment du Covid ou pas?
Mais le Covid, c'était, j'ai envie de dire, c'était, voilà, le Covid, les gens sont restés chez eux, vous mettiez du gel hydroalcoolique, un masque, il y avait les vaccins qui arrivaient, on n'a pas de vaccin contre le système caniculaire. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc, du coup, ça veut dire toute une politique de prévention. Moi, à mon sens, si le Premier ministre, là, il y a une interministérielle, très bien, qui travaillent, qui réfléchissent, qu'ils aillent vite, il faut trouver des nouveaux systèmes, je sais pas, tendons des toiles entre les façades des immeubles dans les villes pour faire de l'ombre, pour essayer de faire
ça, ça existe
chaleur.
À Séville notamment.
Oui, Séville, à Ronda, tout ça, ça existe
ça
en Espagne.
Ça doit coûter très cher en plus.
On dit qu'on est à 1000 morts supplémentaires, ça veut dire que ça va être très très largement dépassé,
oui.
Ou ça l'est déjà. Quoi,
mais
en
oui,
fait.
Ça l'est certainement déjà, parce qu'entre le moment où le certificat de décès est signé et il arrive dans les tuyaux de l'administration, il faut du temps. Hélas. Après. Et puis surtout, vous avez l'usure des corps, et ça, on ne sait pas où on va.
Capitaine Habart, vous voulez rajouter?
Je souhaite déjà tirer un coup de chapeau au personnel soignant, qui est en première ligne avec les services de secours. Ce qu'on a pu constater, c'est plus de 22% de nos interventions sur la même période par rapport à l'année dernière. Donc oui, en effet, on constate une vraie augmentation. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'État s'est préparé. L'État s'est préparé à travers notamment une vraie modernisation, au final, de la réponse des services de secours. Un exemple très concret, le kit canicule. Ce kit canicule a été mis en place donc à Paris en Île-de-France par la BSPP. À partir du moment où quelqu'un est pris en charge avec une hypothermie, les sapeurs-pompiers et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris arrivent avec une
hyperthermie.
Pardon, une hyperthermie.
Mais c'est quoi ce kit? Qu'est-ce qu'il y a dans le kit?
À partir du moment où donc les pompiers arrivent, ils mettent en place une baignoire mobile dans laquelle ils vont mettre des glaçons et de l'eau fraîche pour permettre finalement de baisser la température.
On met le corps dans cette eau très fraîche pour faire baisser la température.
Tout à fait.
Enfin, en même temps, c'était pas nouveau. Ce qui a été nouveau, en effet, ça a été de déporter au plus près des malades qui étaient avec.
Ne pas attendre d'être à l'hôpital pour le faire.
Ne pas attendre l'hôpital qui était pour le faire. Et là, il y a une réserve de glaçons qui a été mise en place.
On a quand même tiré un peu les leçons parce qu'il y a eu 15 000 morts en 2003.
20 000. À chaque fois, tout le monde se trompe.
Alors, c'est.
Les chiffres qui ont été corrigés après par l'INSERM et le CNRS sont plus de 20 000.
Parce que cette surmortalité, il faut l'étudier dans le temps.
C'était 85 000 en Europe.
Alors, 20 000 morts en 2003.
Ouais.
On aura moins de morts cette fois-ci.
J'en sais rien. Je sais pas. Vous voyez, le scénario que votre collègue vient de dire, c'est très inquiétant. Si on a des successions de périodes de chaud, ça va être de plus en plus difficile. Oui, en fait. Et puis vous avez le ras-le-bol des gens. Il faut voir aussi de la chaleur. Les gens vont partir, vont aller ailleurs, mais il risque de pas y avoir d'ailleurs par rapport à ce que vous dites. Si c'est l'ensemble du pays qui, avec une chaleur étouffante, ça va être très difficile.
Thierry Amouroux est avec nous. Il est le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers.
Frédéric Maud de la CGT.
Ah, bah, c'est pas vous, pardon.
CGT Construction.
Oui. Excusez-moi, pardon. Oui, je confonds, pardon. Non. Excusez-moi. Voilà. Frédéric Maud. Et Thierry Amouroux est avec nous en ligne, pardon. Thierry Amouroux, bonsoir. Un mot quand même, parce que il y a ces climatiseurs qui arrivent. C'est une promesse de Sébastien Lecornu. Il en a commandé 30 000 d'un coup. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que les voyez arriver? Est-ce qu'enfin le gouvernement réagit à la mesure de ce qu'on vit en ce moment?
Alors, ils ont été commandés ou pas? Il y a eu une annonce qui a été faite. Mais vous savez, on a le souvenir des 10 000 respirateurs lors de la vague du Covid de 2020. Ils sont arrivés 2 mois après la bataille. Et en plus, c'était un équipement inadapté. C'était des respirateurs pour du transport, pas pour de la réanimation en hôpital. Donc là,
prudence. On ne sait pas attention à la com.
Ça va arriver. Et puis, comment ça va se présenter? Autant c'est important d'équiper les hôpitaux, parce que la plupart ont des grands halls vitrés qui sont devenus des serres médicalisées, mais des serres néanmoins, avec des chambres à 36 degrés très vitrées, sans volets, des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir ou que de quelques centimètres. Donc du coup, bah voilà, on fait le.
Mais pourquoi il n'y a pas un plan clean pour l'hôpital mis en place sur plusieurs années? Pourquoi on n'a pas anticipé, puisque ces responsables politiques nous disent matin, midi et soir que de toute manière, la canicule, il va falloir s'y habituer, elle reviendra chaque année. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas anticipé, parce que c'est beaucoup d'argent à mettre sur la table, mais sur plusieurs années.
Ah non, mais l'argent, on l'a, il n'y a pas de souci. Prenons l'exemple des EHPAD. Il y a 7500 EHPAD, 610 000 résidents. Si vous voulez équiper les chambres de tous les EHPAD, pas simplement une seule pièce au sein de l'EHPAD où vous allez entasser 80, 120 résidents, climatiser l'ensemble des EHPAD, ça représenterait 2 milliards. Or, la journée de solidarité, elle rapporte chaque année 2 milliards et demi. Mais elle existe depuis X années et du coup, on a accumulé 50 milliards. Où sont passés ces 50 milliards? Pourquoi ils n'ont pas été utilisés pour les EHPAD? Pourquoi ça n'a pas été utilisé pour les hôpitaux? Parce que il faut bien comprendre que ce qui est une gêne pour nous, en parfaite santé, qui avons du mal à dormir la nuit, on est mal dans la journée. Mais lorsque vous êtes à l'hôpital avec un problème cardiaque, respiratoire, même un problème chirurgical, et vous êtes dans une étuve à 36, 38 degrés, mais ça, c'est au-delà de l'inconfort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce que ça entraîne une aggravation de leur état et une décompensation de leur état.
Mais justement, on l'avait évoqué avec Patrick Pelloux, Thierry Amouroux, il y a une candidate à l'élection présidentielle qui s'interroge. Bonsoir Nathalie Arthaud, vous êtes avec nous. Je rappelle, vous êtes candidate lutte ouvrière pour la prochaine élection présidentielle. Vous avez écouté le début de notre discussion. Et c'est ce que vous demandez, c'est là-dessus que vous interpellez le gouvernement. Où est, depuis 23 ans, est passé l'argent de la solidarité, quoi?
Mais bien sûr, moi quand j'entends qu'il y a des chambres d'EHPAD à 33, 34, 35 degrés, des chambres d'hôpitaux à 33, 34 degrés, ça me révolte, ça me révolte. Les malades qui sont à l'hôpital sont là pour être protégés. Au final, ils se retrouvent à être mis en danger. J'ai lu le témoignage du chef de service de l'hôpital d'Aulnay expliquer que malade qui avait des qui était venu pour se faire soigner pour bien d'autres choses se sont retrouvés en hyperthermie et en réanimation. Est-ce que c'est possible ça? Et alors bon, franchement, le gouvernement est très content de lui parce que dans les EHPAD tout se passe bien, mais une salle réfrigérée, franchement, tous ceux qui sont alités, qui ne peuvent pas se déplacer, comment ils font pour dormir? Ce n'est pas acceptable. Et oui, moi je me souviens très bien de 2003. Ah, il fallait être solidaire avec les anciens, avec les aînés. Il fallait tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Il fallait climatiser les EHPAD et les moderniser, etc. 3 milliards par an. On est à plus de 60 milliards, là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Cette priorité-là, elle n'est même pas, finalement, elle n'est même pas respectée.
Alors,
je trouve
Madame
ça révoltant. Voilà.
Madame Arthaud, restez avec
vous. Je vous pose la question.
Justement, Frédéric Bianchi est journaliste à BFM Business. Vous avez enquêté, vous avez regardé où est passé l'argent, ou plutôt où passe l'argent de cette journée de solidarité, alors Frédéric?
Bon, alors il faut savoir que d'abord, cet argent de solidarité, c'est à peu près effectivement 3 milliards par an. Hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on nous a donné. Où est passé l'argent? Il n'est pas parti pour financer les vacances des ministres. Il a été utilisé, cet argent. Alors certes, il n'a pas été utilisé pour mettre une climatisation dans chaque chambre d'EHPAD. Mais ce n'est pas ce que prévoyait la loi. La loi, elle disait que chaque EHPAD devait avoir au moins une pièce climatisée. Alors ces 3 milliards, mais on ne sait pas trop comment ils sont fléchés. Maintenant, ce qu'on sait en tout cas, c'est que depuis 2021, ils servent à abonder ce qu'on appelle la branche solidarité de la sécurité sociale qui a été créée. Et qu'est-ce que ça finance tout ça? Ben, principalement des salaires d'aide-soignantes, d'aide à domicile, des soins dans les EHPAD. C'est tout ça que ça finance, cet argent-là. Il faut savoir que la branche solidarité, c'est à peu près 43 milliards d'euros par an. C'est grâce à ça qu'on a évité, pour le moment, il faut être évidemment très prudent, mais le drame de 2003, le docteur Pelloux parlait de 20 000 morts. On n'y est pas quand même. Non. On peut pas dire que rien n'a été fait depuis une vingtaine d'années. Il y a eu le plan bleu dans les EHPAD.
On a oublié l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a tout misé sur les EHPAD.
C'était
les leçons de 2003.
Exactement.
Et on voit qu'à l'hôpital, malheureusement, on n'a pas climatisé.
L'hôpital est sans doute le grand oublié de ce qui a été dépensé. On a tout mis sur les EHPAD parce que le drame en 2003 avait été sur les EHPAD. Mais dans les EHPAD, il y a depuis eu le plan bleu quand même. Tous les EHPAD se mobilisent évidemment pour hydrater les résidents des EHPAD. Plus,
d'accord, mais Frédéric, excusez-moi, là, dans le
Mais cet argent n'a pas été claqué.
Oui, très bien, mais regardez, là, vous nous dites 75% alloué pour le financement de l'établissement, d'accord, 17% distribué sous forme d'allocation, mais je vois le coût de gestion administrative de l'organisme qui gère l'argent collecté. 750 millions d'euros par an. Pour gérer cet argent, on dépense, donc pour l'administration, 750 millions d'euros par an.
Excusez-moi. C'est peut-être trop.
C'est un cinquième de ce que rapporte la journée.
Sans doute. C'est peut-être beaucoup. Il y a sans doute des économies à faire. Mais vous savez qu'en France, on n'est pas au problème de sous-administration, hein, parce que ce problème-là, vous pouvez
le trouver peut-être récupérer
dans
un
toutes
peu
les administrations.
Climatiser davantage.
Il y a peut-être évidemment quelques gabegies dans ce service qui est censé gérer cet argent-là. Mais ces 3 milliards et demi, encore une fois, il y en a une bonne partie qui ont été investis pour le confort des résidents dans les EHPAD, ce qui nous a permis jusqu'à présent, et encore une fois, il faut être très prudent, le drame de 2003 qui avait causé plus de 20 000 morts.
Donc vous voyez, Madame Arthaud, l'argent, on sait comment il a été fléché, et puis il y en a une partie qui part à l'administration aussi.
Non mais, évidemment, il faut payer les salariés des EHPAD, et oui, moi je tiens aussi à leur rendre un hommage, comme aux salariés des hôpitaux qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, évidemment, et ils devraient être bien mieux payés, bien mieux reconnus par la société. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais là, vous nous expliquez que c'est le problème de la suradministration, mais attendez, c'est une blague. Il y a 436 milliards pour la loi de programmation militaire. Le gouvernement a décidé la construction d'un porte-avions à 10 milliards. On va construire des missiles, on va fabriquer, voilà. Et on ne trouve pas de quoi climatiser ou rafraîchir. Rafraîchir un EHPAD, vous savez, tous les EHPAD. Moi, je fréquente un EHPAD très régulièrement. J'y suis allée il y a encore 2 jours. J'y étais. Alors, c'est un système de climatisation, mais pas dans toutes les chambres. En fait, l'air est rafraîchi et ça fonctionne bien. Mais parce que cet EHPAD a été construit il y a 5 ans. Et c'est une exception en réalité. Et c'est ça le problème. C'est que la priorité, ce n'est jamais les intérêts, les besoins finalement de la population et des travailleurs en particulier.
Vous demandez un plan clim comme le demande Marine Le Pen en fait.
Mais la climatisation est devenue incontournable. Incontournable au stade où nous en sommes. Incontournable. Comment on fait pour survivre dans comme ça hein, entendre qu'il y a des malades à l'hôpital qui sont en hyperthermie. C'est acceptable, ça? Donc, moi, je défends l'idée que il faut qu'on survive dans cette atmosphère qui est devenue juste invivable. Et invivable à cause de quoi? À cause de qui? Et moi, ce qui me met aussi très en colère, j'ai entendu Farandou ce matin, le ministre du Travail et des Solidarités, expliquer justement que sur cette journée de solidarité, hein, que, puisqu'il a été questionné, où vont les 3 milliards par an? Oui. Et il a expliqué, c'est pas moi qui l'invente, lui il a expliqué que c'était pas, il fallait pas faire que de l'adaptation, il fallait aussi lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, il faut verser des milliards de subventions à ArcelorMittal, à Total, à Peugeot, à Mercedes qui font les usines de batteries au nom de la décarbonation. Mais dites-moi, tous ces gros trusts qui sont richissimes, qui font des profits à n'en plus finir, ils peuvent pas les payer? Ils peuvent pas les payer leurs investissements, la décarbonation? Ben moi je dis qu'ils devraient les payer. Ils devraient les payer et cet argent, il devrait évidemment aller aux EHPAD, aux hôpitaux, aux écoles aussi.
Nathalie Arthaud, vous parlez de Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail. Lui, il voudrait qu'on vive à l'espagnol. D'ailleurs, il va se rendre, je crois, en Espagne à la rentrée pour voir un peu comment ça se passe. Peut-être décaler les horaires du travail, arrêter de travailler entre 9h et 18h, travailler peut-être plus tôt le matin ou plus tard le soir. Est-ce qu'il faut vivre désormais à l'espagnol? Et il faut aussi que les salariés s'y mettent.
Alors, mais justement, écoutez le ministre du Travail.
À partir de septembre, j'ai proposé aux partenaires sociaux d'engager un grand travail de réflexion. D'abord, on fera le retour d'expérience sur ce qui s'est passé juin, juillet, août, de manière très lucide. Et ensuite, et j'ai proposé d'ailleurs à l'invitation de la ministre espagnole du Travail que j'ai eu vendredi au téléphone, je lui ai demandé si elle était d'accord pour nous recevoir. Bien évidemment, elle a dit oui. Et donc, on va aller ensemble en Espagne. En Espagne, à Madrid, à 40 degrés, ça fonctionne. On va faire un voyage d'études et je vais proposer aux partenaires sociaux, bien sûr, de venir. On y restera deux ou trois jours, bien évidemment. Et on essaiera de comprendre comment la société espagnole s'est adaptée à la chaleur, ils sont juste à côté. Il faut qu'on considère en fait que la France, l'été, ça devient l'Espagne.
Voilà, Madame Arthaud, il faut qu'on aille en Espagne voir comment ça se passe pour en tirer les leçons en France.
Est-ce qu'il ne pourrait pas écouter tout simplement les ouvriers? Est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement écouter les travailleurs? Hein, moi, je pense qu'à partir du moment où on se fatigue deux fois plus vite, quand on travaille à 35 degrés, eh bien, il faut qu'on travaille deux fois moins. Voilà, on écourte la journée de travail, on la divise même peut-être par deux en réalité, et puis on ralentit les cadences. Ah mais ça, les cadences, c'est un principe sacro-saint. Hein. Dans toutes les usines automobiles, vous savez, les travailleurs, ils ont dû se battre pour allonger un petit peu leur pause, pour avoir un peu plus de pause et pour les rallonger un petit peu. Par contre, les cadences, ah, ça, il faut pas y toucher. La production, il faut qu'elle sorte. Faut arrêter avec tout ça. Il faut que la priorité, ça soit bien sûr la santé, la protection des travailleurs, de ceux-là même qui font tourner la société. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut se mettre à l'heure espagnole, il faut se mettre à l'heure des travailleuses et des travailleurs.
Merci Madame Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, porte-parole de Lutte Ouvrière. Merci d'avoir été avec nous. Avant de continuer de discuter, de voir comment on peut adopter justement les chantiers, le bâtiment, les travaux publics avec le représentant de la CGT Bâtiment, on va retrouver Loïc Besson, il a l'hôtel de Matignon pour BFM TV, parce que le Premier ministre tient en ce moment une réunion de la cellule de crise, Loïc, en bras de chemise, qui est assez rare.
Exactement, place Beauvau, parce que c'est au ministère de l'Intérieur que se tiennent à chaque fois ces cellules interministérielles de crise, même si celle-ci, en effet, dans quelques instants, va être présidée par le Premier ministre, le gouvernement qui tient quand même à souligner que le système a tenu, que les équipes de secours jusqu'aux armées ont su se mobiliser, s'organiser, que le système électrique aussi a tenu, malgré bien sûr une surconsommation liée tout simplement au climatiseur. Pour autant, il ne faut rien minimiser, c'est clairement le mot d'ordre autour du Premier ministre qui entend quand même souligner les failles, les faiblesses qui ont été constatées ces derniers jours et qu'il faut à tout prix corrigée en vue d'un nouvel épisode de canicule. D'abord, au sein des hôpitaux, rappelez que même si les températures ont baissé globalement en France, la tension reste toujours très vive et il ne faut pas sortir du niveau maximal du plan Orsan. Soulignez aussi qu'il y a eu des défaillances techniques dans le rafraîchissement de certains établissements essentiels comme les hôpitaux, les crèches, les écoles. Soulignez aussi les faiblesses et les défaillances qu'il y a pu avoir dues à l'ancienneté du réseau de chemin de fer, par exemple, ou tout simplement au système de climatisation des transports en commun. Et puis également, réfléchir à encadrer les festivités, les activités, les rassemblements. On l'a vu, ça a été flou pour la fête de la musique, par exemple. Il va y avoir le 14 juillet, le Tour de France. Faut-il une doctrine plus stricte en cas de forte canicule? Ça fait partie des sujets que le Premier ministre veut mettre sur la table. On nous promet également plusieurs annonces, une annonce en particulier et également un suivi des attentes. Sébastien Lecornu qui va forcément faire le lien avec la canicule de 2003. Ça a tenu dans les EHPAD. Évidemment, le bilan n'a rien à voir. En revanche, ça peut s'avérer plus compliqué dans les décès dits à domicile.
Voilà, Loïc Besson avec David Bouteiller devant le ministère de l'Intérieur pour BFM TV. Frédéric Mau, vous êtes secrétaire fédéral CGT Construction. Vous voyez faire de la construction à la mode espagnole, commencer tôt le matin, arrêter tôt en début d'après-midi ou décaler le soir
Je sais pas, pour l'instant, depuis le début de la séquence, on est à 3 morts, nous. Une quinzaine d'hospitalisations en hyperthermie grave, donc possiblement avec séquelles.
Pardon, les 3 morts, c'est donc directement dans l'exercice de leur fonction.
Oui, oui, oui.
Par exemple, un couvreur, un jeune couvreur.
Il y a eu un jeune couvreur. Ah oui, parce que nous, en fait, depuis le mois de mai, on prend cher, en fait.
Oui.
Alors, c'était pas les fortes, enfin, quoi que 35, on est monté à 35, mais on avait des chocs thermiques, parce qu'en 48 heures, on passait de 35 à 15. Mmh. Le corps, on est habitué à être dehors. Oui. Mais le corps, pour qu'il s'habitue, on est habitué jusqu'à 30, voilà, après, au-delà, 40.
Et on vous fait travailler quand il fait 35 dehors?
Je suis constructeur de route, on reçoit la cam à 160 degrés au sol et on a les pieds dessus. Nous, on a des airs ambiants à 75 degrés. On n'a plus de job étudiant, on n'a plus l'intérimaire, on n'a plus là, on a vraiment que les salariés aguerris. Mais on arrive au bout, là, depuis quelques étés, au bout d'une barrière thermique infranchissable. Enfin, c'est physiologique. C'est-à-dire que le sang se met à bouillir à 100 degrés. On n'en est pas loin. Voilà, on arrive au bout. Ce qui se passe là, c'est que comme rien n'a été fait depuis toujours, et pourtant, c'est pas faute d'être prévenu, là, tout va se faire un peu dans l'urgence. Donc, on dit que ça.
Quoi, par exemple, qu'est-ce qu'on vous dit?
Eh ben, on va nous mettre. Faut commencer plus vite, finir plus tôt. Ouais, bah déjà, on commence plus vite. On finit pas forcément plus tôt.
Vous commencez plus tôt. Vous commencez à quelle heure là en période de canicule?
Ça peut être 6h du matin, 7h du matin. Alors le souci, c'est qu'en ville, ben on prend des frigos du 4e étage hein, parce que les gens ont besoin de dormir.
Les gens se plaignent des nuisances.
Ah oui, c'est pas comme avant, ce qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, c'est ça.
Et les gens comprennent pas que vous faites travailler parce que justement.
Et une patronne, l'autre fois, on discutait ensemble, elle me dit mais même à la campagne, elle dit, elle envoie ses gars sur un chantier dans un petit hameau en pleine campagne. Ils ont été reçus au fusil, il était 6h du matin, ils ont été reçus au fusil. Enfin, c'est compliqué de décaler les horaires en France, c'est pas culturel. Après, la sieste espagnole, bon, le ministre, je veux bien, mais en Espagne, c'est assez simple, ils font 6h midi, 6h 13h. C'est comme ça, mais c'est culturel.
Est-ce qu'il va falloir en venir là ou pas?
C'est culturel. Ah ben, de notre point de vue, on va y être contraint et forcé. Il est toujours dehors. Il n'y a pas que nous. Hein. J'ai bien aimé, moi, les déclarations des camarades de la métallurgie sur les endroits où il y a des robots, il y a de la clim. Là où il y a que des hommes, on n'en a pas. Enfin, ça illustre quand même pas mal le
Mais vous avez l'impression que il y a un discours. Les hommes politiques ou les femmes politiques nous disent attention, les canicules vont se répéter, les vagues de chaleur, et puis derrière l'action n'est pas là, pas à la hauteur en tout cas.
Mais là, vous, sur Paris, vous avez une commission de la mairie de Paris, Paris 50 degrés. Enfin, moi je rappelle que nos villes européennes, 50 degrés, sont inhabitables. Depuis des siècles, nous avons construit nos villes contre le froid. Ça n'a jamais été prévu pour le chaud. Donc ça deviendra inhabitable. Juillet 2018, on est monté à 46,8 sur Paris. Enfin, on est quand même pas loin. Ça a duré une journée. Si on a 3 semaines à 48,50,
là... Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt pour vivre à 50
degrés.
Du tout.
À la ramasse totale.
Mais Frédéric Mau, on peut pas arrêter les constructions. Non. Il y a des délais à tenir, parce qu'il y a des clients qui ont payé, qui attendent à ce qu'on aille au bout du chantier. Donc, il faut forcément trouver un modus vivendi, quoi.
Oui. Alors, la demande en bâtiment pour la demande, c'est de la demande publique. Notamment les collectivités, et pour les travaux publics, 75% c'est de la demande publique. Donc à un moment donné, il y a aussi un devoir d'exemplarité, qu'on n'observe pas plus que ça, déjà. Sur les délais, je pense qu'il y a moyen, de travailler, on y travaille déjà, puis on a réussi à faire bouger les lignes. pas simple partout, mais j'ai envie de dire, on n'en est plus là. J'étais la semaine dernière sur Bruxelles, interpellé par la Commission européenne sur l'industrie. C'est la même chose. Nous, on est sur la cité de demain et un plan Marshall. Enfin, il y a un moment donné, plan
est-ce
Marshall,
c'est... Ce qu'on vous demande de construire aujourd'hui, est-ce qu'on prend vraiment en compte le fait qu'il fera de plus en plus chaud et qu'il faut donc adapter le bâti à ces nouvelles données ?
Il y a des choses qui sont faites. On peut pas le nier. Il y a des choses qui sont faites. Est-ce que c'est là à la hauteur des enjeux? De mon point de vue, non, parce qu'on continue le béton qui est très conducteur. On continue toutes ces choses.
Il y a des nouveaux matériaux qui arrivent.
Il y a des nouveaux matériaux.
On fait toujours des grandes baies vitrées.
Voilà, plein sud. Voilà. Non, mais c'est tout ça. C'est que on a fait en fonction du froid. Oui. C'est-à-dire que nos baies vitrées sont orientées plein sud. On s'est protégé du nord. On a pris en compte les vents dominants. Enfin, mais c'est séculaire. Là, aujourd'hui, boum, il y a coup d'arrêt.
Donc, c'est vraiment un changement de mentalité.
C'est complètement autre chose. C'est pour ça qu'on porte l'idée, parce qu'on n'est pas forcément compétent à dire on a raison sur tout, mais l'idée de pourquoi pas se mettre autour d'une table entre professionnels, chercheurs, parce que j'entendais parler végétalisation.
Oui.
Dans les grandes villes où ça a été fait massivement, ils ont réintroduit le paludisme,
oui,
qui avait disparu depuis 40 ans, notamment en Asie. Peut-être se rapprocher des chercheurs en phytotechnie, donc la science des plantes, pour faire les choses un peu plus sérieusement. Il faut mettre du monde autour, et pas que de la com' politique.
On va retrouver Marie Gentry, elle est à Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes donc dans les Yvelines. Parce que Marie, cette canicule a montré aussi des défaillances de réseaux électriques, d'où la colère de bon nombre de commerçants, certains que vous avez rencontrés d'ailleurs, et vous êtes avec eux, des boulangers.
Oui, plus que la colère, c'est surtout le désarroi des commerçants parce qu'effectivement, pendant des heures, parfois même des jours, ils n'ont pas eu d'électricité. Je suis avec Sandrine, qui est boulangère depuis 40 ans maintenant. Alors Sandrine, il y a eu plusieurs coupures d'électricité, mais la grosse coupure, elle a duré une trentaine d'heures.
On va écouter le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Sur le terrain météorologique, mais enfin évidemment, je le fais devant les médias, avoir une pensée particulière pour les victimes, non seulement d'ailleurs en France, mais aussi dans désormais beaucoup de pays en Europe, de cette canicule, leurs familles et celles et ceux qui sont évidemment éprouvés par cette crise climatique et de chaleurs extrêmes sur lesquelles on va revenir dans un instant. Je pense que pour cette CIC, je vous propose de regarder de la manière la plus rationnelle possible, globalement, la liste de ce qui a fonctionné. Et beaucoup de choses ont fonctionné. Et d'ailleurs, ce qui a fonctionné globalement est ce qui a été anticipé. Puis les éléments, à mon avis, qui méritent une attention particulière, et je le dis clairement, des choses qui ont moins bien fonctionné et sur lesquelles je souhaite qu'on puisse trouver un certain nombre de réponses. Certaines ont déjà été documentées par les équipes et les ministères, et je vous en remercie, et ça a été remonté, et qu'on puisse prendre un certain nombre de décisions dans les jours qui viennent, étant entendu que la perspective d'une reprise d'un épisode caniculaire est possible, avec la prudence évidemment qu'il convient d'avoir. Sur ce qui a bien fonctionné, je le dis vraiment pour les équipes de Météo France, la directrice générale Virginie Schwartz est là-bas. Je veux le dire parce que globalement, l'ensemble de la chaîne de prévision et ensuite de réaction, au fond, des agents de Météo France jusqu'aux agents hospitaliers à l'entrée des urgences de nos hôpitaux en passant par les forces de sécurité civile, l'ensemble de la chaîne a tenu. Et notamment sur la qualité des prévisions. Je me rappelle qu'il y a quelques années, parfois Météo France faisait l'objet de procès un peu faciles, et on voit bien que les différents investissements, la qualité des équipes, nous a quand même permis d'avoir des modèles qui sont solides et qui nous permettent en plus d'avoir des partenariats avec les différents pays qui nous entourent. Donc ça, évidemment, cette réactivité-là nous a permis de notamment traiter aussi la question de la fête de la musique dans des temps records, puisqu'entre le moment où les alertes ont été données, le moment où on est rentré en discussion avec l'ensemble des préfets, des forces de sécurité civile, forces de sécurité intérieure, on a eu une organisation qui a bien fonctionné. La deuxième des choses, c'est évidemment la solidité et la réactivité des capacités hospitalières. Heureusement qu'on a pris les décisions d'Orsan 2, Madame la ministre de la Santé, d'Orsan 3 dans les temps, avec beaucoup de subsidiarité, qui ont permis de déclencher les différents plans, blanc ou bleu aussi pour les établissements médico-sociaux. Enfin, on va y revenir parce qu'il y a de l'inertie, évidemment, sur l'attention hospitalière. Et si les températures sont meilleures, c'est pas pour autant que la situation n'est pas tendue dans les différents hôpitaux. On va y revenir. La troisième des choses, évidemment, monsieur le ministre de l'Intérieur, la réactivité des forces de sécurité civile. Les chiffres sont impressionnants. Je le dis pour le directeur général, l'ensemble de la chaîne, que ce soit les militaires sur, évidemment, Paris et Marseille, mais c'est vrai aussi l'ensemble des 10 du pays. L'activité opérationnelle a été très très forte et donc évidemment ça pose des questions aussi d'endurance sur les semaines à venir avec la question des risques des feux de forêt. La quatrième des choses, c'est évidemment Et à la fois, ça a fonctionné, mais on va y revenir. C'est pour moi le sujet de préoccupation numéro un. C'est les dispositifs locaux de protection des personnes. Globalement, toute personne fragile confiée à un établissement spécialisé, je pense très fort aux EHPAD, ça a fonctionné. Je pense aussi à l'hébergement d'urgence. Ici ou là, il y a évidemment toujours des difficultés. Mon propos est national, donc il peut souffrir d'exceptions locales. Ces publics sont connus, il existe des plans, ils ont été déclenchés. La chaîne de commandement, si j'ose dire, a bien fonctionné. Sur les populations, nos concitoyens et nos concitoyens fragiles à domicile, à la fois les plans ont bien été déclenchés, l'exécution de ces plans, j'en dirai un mot dans un instant, a été beaucoup plus difficile, ce qui explique la décision que nous avons prise avec les ministres de cette activation du réseau des facteurs pour permettre de venir ici ou là, venir suppléer les différentes difficultés locales, parce que des mairies parfois ayant un manque de moyens, des centres communaux d'action sociaux qui ont pu être débordés, un réseau associatif qui avait besoin de suppléance. En tout cas, on voit que c'est perfectible, j'en dirai un mot dans un instant. Enfin, de manière plus générique, le système énergétique a tenu. Je le dis parce que parfois beaucoup de contre-vérités circulent ici ou là. Je vous rappelle quand même que globalement, avec la climatisation, on est à 25% de consommation en plus par rapport à la période ordinaire. Quelque chose comme globalement 58 gigawatts. Alors, on est loin des 80 gigawatts des pics de l'hiver. Enfin, globalement, la tension était là et le réseau était non seulement de qualité, mais en plus, on a continué à exporter de l'électricité pendant toutes ces périodes. J'en parle maintenant parce que c'est un des défis qu'il va falloir relever aussi sur la résilience de ces réseaux dans la durée. Et enfin, un mot pour les transports et la SNCF, dans lequel il y a eu des situations un peu chaotiques au début, mais il y a une réactivité très importante du ministère des Transports et des équipes de la SNCF, il faudra le dire à ces équipes, parce que s'il y a eu vraiment des situations très pénibles. Il y a aussi un principe de précaution qui s'est évidemment très vite installé. Retrait des rames qui ne sont pas encore climatisées. Moyennant quoi, ça a créé évidemment des perturbations réelles, mais la capacité à protéger les voyageurs est largement ce qui a dominé. Et je crois pouvoir dire que ça a fonctionné. Si j'avance, toute comparaison mécanique, si j'ose dire, et la ministre de la Santé l'a dit, et je pense que les chiffres de Santé publique France viendront encore le démontrer dans les heures qui viennent, toute comparaison mécanique avec 2003 serait assez mal à propos. Je le dis prudemment, c'est un peu tôt, mais on le voit bien, le nombre de victimes à domicile est bien plus important que sur tous les épisodes précédents. Et en clair, la surmortalité à domicile, c'est-à-dire quand les forces de secours arrivent, malheureusement, les personnes sont déjà décédées. Et à l'inverse, les EHPAD ont tenu, avec une pression qui est forte, un engagement important évidemment des équipes, enfin aussi beaucoup d'argent qui ont été mis ces dernières années. Hein, le fameux Ségur du médico-social aussi est passé par là, enfin, je le dis comme ancien président de département. On a donc quelque chose qui a bien tenu, mais sur lequel il va falloir y revenir. Et puis évidemment, le point d'attention particulier, c'est l'hôpital. Si j'avance maintenant sur les fragilités sur lesquelles ensuite, dans le clos de cette CIC, je souhaite que nous avancions, mais en transparence, je les mets ici sur la table. C'est je le fais devant la presse pour l'instant, et ensuite on y reviendra sur les réponses avec sans la presse et entre nous. Bon, la première fragilité, c'est évidemment la fragilité hospitalière et l'inertie sur les hôpitaux. Je remercie les organisateurs de nombreux événements qui ont accepté les décisions des préfets de gré à gré, ou en tout cas souvent de gré à gré, mais si on les a prises, ces décisions, c'était pour éviter d'avoir une tension hospitalière plus forte que ce que nous avons connu. Je le dis en revanche tout de suite, sans attendre la CIC, il va sans dire que Orsan 2 et 3 doivent être maintenus dans les jours qui viennent pour laisser la capacité aux différents hôpitaux de maintenir les plans blancs, l'ensemble des scénarios de déprogrammation sur lesquels on viendra dans le détail, les rappels évidemment de personnel soignant avec un message de gratitude particulier, là aussi on en reparlera pour qu'elle ne soit pas oubliée évidemment dans cette période particulière. La deuxième fragilité qui a largement occupé les débats publics, voire politique, pour ne pas dire parfois politicien, c'est la capacité de rafraîchissement des établissements de santé. Donc la ministre m'a fait une proposition qu'on a tout de suite validée avant le week-end de l'acquisition de 30 000 climatiseurs. Les premiers milliers de ces climatiseurs, sous l'autorité de la ministre, vont être livrés en fin de semaine, début de semaine prochaine. Il y a un défi logistique et de priorisation important, mais c'est une priorité pour nous absolue, en cas de reprise du phénomène, d'avoir une situation hospitalière qui soit beaucoup plus douce, beaucoup plus amortie. Et ensuite, les ministres de la Transition écologique et ministres de l'Énergie et ministres de la Santé auront à réfléchir sur des solutions beaucoup plus structurées. Après, je le redis, hein, ces dernières années, c'est sûr, quand on a remis 100 euros sur l'hôpital, c'est davantage la revalorisation des soignants ou le matériel médical qui a été priorisé. Le bâtimentaire faisait partie aussi de ces 100 euros, mais de manière plus résiduelle. En tout cas, on ne peut pas rattraper tous les retards en seulement quelques années. En tout cas, la commande des 30 000 climatiseurs est bien validée et les premières livraisons, en quelque sorte, vont intervenir rapidement. La troisième fragilité, je le disais en introduction, pour moi, c'est la plus préoccupante. Elle dit aussi quelque chose de notre société, hein, sur la question de la solitude, la question des personnes qui vivent seules, des personnes qui vivent seules parce qu'elles n'ont plus de proches. Parfois aussi, je l'ai vu de chez moi à Vernon, des personnes qui vivent seules et qui ont des proches qui ne s'occupent plus d'eux, ce qui pose aussi la question du rôle de la puissance publique dans cette affaire. Bon, là, clairement, on a quelque chose qui théoriquement fonctionne bien, mais sur lequel on a vu cette semaine que c'était perfectible. La tenue des registres communaux des personnes vulnérables. Parfois, les fichiers sont de mauvaise qualité. À l'heure du numérique, de l'intelligence artificielle, on a du mal à comprendre, mais enfin, en tout cas, c'est un défi, s'impose à nous. Et ça, évidemment, il va falloir le traiter. Ce qui explique ce pourquoi, au fond, sur les publics EHPAD ou sans-abri, ça a été plus facile de les mettre en protection que sur des personnes qui sont tout simplement dans leur sphère privée. Et ça, je crois qu'il va nous falloir avancer dans la planification, ce qui est une des grandes différences avec 2003. S'il y en a une, c'est bel et bien celle-ci. Elle va concerner la puissance publique, elle va aussi concerner tout à chacun, parce que, pardon, mais il y a aussi une géographie de cette affaire, davantage en milieu urbain, encore plus d'ailleurs en Île-de-France que dans le reste du pays. Et donc aussi, c'est la question un peu de l'anonymat de ces sociétés, de cette société dans laquelle il y a moins de solidarité. Alors, ça ne veut pas dire que l'État ne va pas faire des choses, mais enfin, je le mets aussi là comme ça, sur une dimension beaucoup plus culturelle peut-être, auquel en tout cas je suis à titre personnel très attaché. La quatrième fragilité, et je le dis, et avec le ministre de l'Intérieur, on a fait notre maximum avec ses équipes, si ça dure, il faut qu'on ait une doctrine générale encore plus claire, les manifestations sportives, les grands événements, etc., que tout le monde arrive à bien comprendre ce dont il s'agit, sans abîmer la subsidiarité et la capacité au niveau local. Je pense que là, c'est un des grands retours d'expérience. Moi, en tout cas, c'est ma culture d'élu local, mais j'y suis très attaché. Doctrine générale, à l'État de prendre les très grands événements. Des questions se poseront s'il y avait une reprise, évidemment, sur un certain nombre de grands événements pour cet été. Mais surtout, ne pas abîmer l'intelligence locale. Et ce sont les ministres. J'ai parfois entendu dire le gouvernement se défausse sur les préfets. Bon, c'est le béaba, c'est oui. C'est, les préfets sont les représentants du gouvernement. C'est pas grave. En tout cas, moi, je peux pas dire que tout est centralisé tout le temps. Et je pense que les ministres délèguent leur pouvoir au corps préfectoral. C'est ce qu'on a appris des dernières crises. Et je pense qu'évidemment, il faut le maintenir. Enfin, évidemment, il nous faut préciser les choses et donner de la visibilité. C'est-à-dire qu'avant même une reprise d'une éventuelle canicule, d'un coup d'un seul, la plupart des acteurs du pays arrivent à comprendre globalement comment ça va s'organiser, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui doit être supprimé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je crois beaucoup, évidemment, à cette intelligence-là. Ensuite, il nous faudra avancer, mais je suis pas trop long, sur la question des remontées territoriales. On a encore des efforts à faire sur les remontées chiffrées. Et c'est un peu Paris le désert français. Hein. On a beaucoup, beaucoup d'informations qui nous reviennent de la PAC parisienne. Beaucoup d'informations reviennent au système d'information et de données ont parfois un peu de décalage. Et si on se compare avec d'autres pays proches de nous, comme l'Espagne, c'est pas complètement satisfaisant. Et puis enfin, certaines réponses sont en cours, mais on a un enjeu sur les infrastructures. On a beaucoup parlé des écoles qui sont de la responsabilité des communes. J'ai parlé des réseaux de distribution d'électricité, de transport d'électricité et de distribution. On a une électrification de la France d'après-guerre qui a fait notre fierté, mais enfin, on voit bien aussi qu'on a des réseaux qui sont un tout petit peu vétustes. Inversement, les réseaux centraux qu'on a beaucoup entretenu, sur lequel on a mis beaucoup d'argent, vont tenir. C'est moins vrai des petits réseaux de proximité sur lesquels on a un effort à faire. Avec le ministre Tabarot, on a déjà fait ce qu'il fallait sur la régénération des transports ferroviaires, de l'argent a été mis sur la table. Mais on parle d'adaptation au changement climatique. Il n'y a pas que la climatisation, la question des réseaux de manière globale est un sujet très important et qui emporte d'ailleurs plusieurs chefs de file très différents dans la société civile ou privée. Dernier point, on va l'évoquer en CIC, il y a des impacts économiques, notamment beaucoup sur le monde agricole, sur lequel je souhaite qu'on retrouve, en tout cas qu'on arrive à prendre du temps ce soir pour prendre un certain nombre de décisions pour accompagner nos agriculteurs, sans oublier la question des risques de feux de forêt, qui cette semaine va être particulièrement prégnante et nous amènera aussi à prendre un certain nombre de décisions. Pour finir, moi j'ai demandé au ministre pour cette réunion, et le travail va se poursuivre dans les 48 à 72 heures, qu'on imagine une nouvelle planification pour les chaleurs extrêmes, parce qu'on ne peut pas faire comme si ce qui s'était passé n'était pas extraordinaire, ça l'était. On ne peut pas faire non plus comme si ça ne peut pas se reproduire. Ça va se reproduire. Et donc, on va déclencher, construire, et potentiellement déclencher, si besoin en était, un plan hors sec chaleurs extrêmes, qui n'existe pas aujourd'hui, qu'on va créer, qui va emporter les différents acteurs du pays, qui va créer de la subsidiarité et qui va pouvoir clarifier le rôle de chacun, à la fois sur la gestion de crise de court terme, mais aussi sur l'adaptation de plus long terme. Dernier message, sans langue de bois, je veux vraiment remercier l'ensemble des équipes de l'État. Pour avoir géré beaucoup de crises dans ma vie de ministre ou dans ma vie élu local, c'est jamais très agréable d'être sous le feu de la critique, qu'elle soit justifiée ou non. Souvent, elle est vécue de manière très injustifiée par celles et ceux qui n'ont pas beaucoup dormi ces jours derniers dans les différentes équipes. Mais comme on dit chez moi en Normandie, il y a les diseux, il y a les feuseux. Et donc, je vous propose de continuer de gérer ces différentes crises avec beaucoup de sang-froid, parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent de nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la presse.
Voilà, on vient de suivre la conférence de presse Guillaume Daret du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a fait un bilan de la vague de chaleur, de la canicule, sachant qu'il y en a une autre.
Oui, qui la va perspective arriver, quoi. D'une nouvelle canicule et d'un nouveau moment caniculaire est possible. Donc c'est évidemment ce qui est marquant et ce qui est à retenir. Intéressant aussi.
Il a insisté d'ailleurs sur l'endurance.
Absolument.
Il va falloir tenir, a dit le Premier ministre.
On l'a vu aussi qu'il quand même a pris ses distances avec la canicule de 2003. On voit que ça a beaucoup été évoqué ces derniers jours. Il dit c'est différent parce que ses yeux, les EHPAD ont tenu. C'est ce qu'il note avec notamment cette pièce rafraîchie qui existe dans les EHPAD. Et en revanche, il le constate beaucoup de morts à domicile. Et effectivement, pour tenir, c'est ce qu'il annonce, une planification qui va être mise en place, des propositions qui vont être faites dans les prochains jours, la mise en place d'un plan hors sec chaleur extrême pour construire et peut-être déclencher un plan très rapidement, peut-être dès la semaine prochaine, si à nouveau on est confronté à des épisodes caniculaires.